Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma femme d'aujourd'hui. On découvre la définition et l'incarnation de la résilience. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Rita Trashen, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle est la Rita.
Ça va, alhamdoulilah. Et vous, ça va ?
Bien, bien, merci beaucoup. Quand je dis shbarak, vraiment shbarak, comment ça va ? Comment ça va profondément ? C'est pas un... C'est pas shbarak la baisse, non, c'est le vrai, le pur.
Le pur, le sincère, il est puissant parce qu'en effet, cette année, ça n'allait pas. Mais maintenant, ça va très, très bien. Alhamdoulilah, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alhamdoulilah, wa shukru lillah.
Alhamdoulilah.
J'ai traversé une tempête et aujourd'hui, c'est l'arc-en-ciel.
Alhamdoulilah. Alors, la vie n'a pas été simple avec toi, Rita.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il y a souvent eu des tempêtes. Ce n'est pas la première tempête. On espère que c'est la dernière, mais ce n'est pas la première tempête que tu aies à traverser.
Non, ce n'est pas la première. Disons que dans notre famille, on a toujours été des gens très résilients et on s'est toujours relevé de toutes les épreuves qu'on a eues. Ma marna ma kanch kiou, na haka fi l'aïla. Ay haja katji kangoulou marhaba biha. Wa haka tkoun chouya saïba, di ma kangoulou ya pire ailleurs. Ya pire ailleurs. Alhamdoulilah. Après, ce qui est important, c'est de toujours prendre les choses du bon côté. Ana di ma kangoulha, koul haja fiha akhir. Donc, quelles que soient les tempêtes, je me suis relevée à chaque fois.
Ok. Mais la perte d'un frère, qui a une longue histoire aussi, et on est là aussi pour en parler. En fait, quand on a échangé, je t'ai dit, tu sais, je pense qu'on va devoir faire un épisode par jour avec toi pendant peut-être 10 jours, parce que chaque chapitre... Et c'est un chapitre à part entière, que ce soit celui de la féminité, celui de la maternité, celui du poids, celui de la résilience, celui du deuil. Enfin, tu as tout traversé et avec toute ta générosité, tu es prête à partager pour que justement, ben c'est ça l'objectif de notre communauté, c'est de s'entraider, de s'écouter, de s'entraider. Parfois, on n'ose pas aller demander de l'aide, mais peut-être qu'en écoutant quelqu'un en parler, ben on peut trouver une lueur d'espoir, une façon de se dire, bon, ben, je ne suis pas seule. D'autres ont traversé ça, je vais pouvoir me relever. Là, c'est le début de l'année scolaire et on parle de plus en plus d'harcèlement scolaire. Ok,
oui.
Et ton frère en a souffert et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde.
Oui, Allah
yarhamou. Qu'est-ce qui s'est passé, Rita?
Ouais. Voilà, pour reprendre l'histoire depuis le début. Alors, je suis née à Casablanca en 85 et mon frère aîné avait à l'époque 8 ans. Mon frère m'a dit.
Quand tu es née en 85, lui, il avait 8 ans.
Il avait 8 ans.
Okay.
Mon frère, il avait 10 ans. C'est
d'accord.
Mon frère cadet qui avait 8 ans. Donc, il avait 10 ans. On avait 10 ans de différence. C'était un petit garçon extrêmement éveillé, intelligent, curieux, qui s'intéresse à tout, très, très mature pour son âge, très débrouillard, très attentionné, très affectueux. Vraiment le genre de petit garçon que tout le monde va dire « Masha'Allah, tabarakallah, Ali, il est adorable, en plus très très beau, une beauté vraiment qui fait que les gens se retournent et disent « Oh là là, il est vraiment très beau ce garçon ». Donc il attirait l'attention de par son unicité, de par ses qualités, il attirait l'attention. À l'école, tous les professeurs n'arrêtaient pas de dire « Oh là là, j'aimerais trop que tous les élèves soient comme lui ». Et après, ils le comparaient aux autres élèves. « Oh, mais pourquoi vous n'êtes pas comme Mehdi ?» Mehdi fait ses devoirs, Mehdi, il est soigné, Mehdi, il écrit bien, Mehdi, il lit bien. Donc, il était toujours, si tu veux, placé sur un piédestal. À force, à force, à force, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un élève surdoué. Il a sauté plusieurs classes. Et il s'est retrouvé à l'âge de 14 ans en classe d'avant-terminale,
d'accord,
de première.
Donc
l'année, il devait passer son bac à 15 ans.
Attends,
en gros.
Ouais.
Il s'est retrouvé en étant le plus petit de la classe, que ce soit en taille et en âge. Et il était isolé parce que tout le monde autour de lui le jalousait. Les professeurs n'arrêtaient pas de le comparer aux autres, n'arrêtaient pas de le mettre sur un piédestal. Il n'arrivait pas à se faire vraiment des amis.
Alors, il y a les parents à ce moment-là, pardon Rita, avant d'arriver à ce point, tes parents à ce moment-là, ils... Je ne sais pas si tu t'en souviens, tu devais avoir à peine 4 ans, mais est-ce que tu as pu entendre tes parents plus tard peut-être en parler, de se dire, est-ce qu'ils étaient conscients de son mal-être à ce moment-là ?
Pas du tout, ça a été discuté par la suite quand sa maladie s'est déclenchée. C'est là qu'ils ont découvert énormément de choses parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette communication justement qu'on a aujourd'hui et cette chance qu'on a aujourd'hui de parler de ces choses-là. Et pour eux, du moment qu'il était à l'école, il était bien.
Oui.
Il y avait un tabou même dans la famille de parler avec ses enfants de ce qui se passe à l'école. Donc pour eux, tant qu'il avait de très bons résultats, ils étaient extrêmement fiers de lui.
C'est ce qui comptait à ce moment-là.
Ce qui comptait, c'était les résultats, les notes et voilà. Et du coup, après, donc ses amis, entre guillemets, ont essayé de l'attirer vers la cigarette. Ça a commencé avec la cigarette, ensuite la drogue.
J'imagine qu'il a dû y toucher parce que pour se dire, je vais me faire ma place comme ça.
Exactement, parce qu'ils lui ont dit, si tu veux qu'on soit amis avec toi, il faut que tu fasses comme nous. Ouais. Alors, il faut que tu fumes la cigarette, il faut que tu fumes la drogue, il faut que tu boives de l'alcool et tout. Et lui, il voulait tellement se faire des amis qu'il y est allé. Et en fait, il a suffi d'une fois. Il a touché une fois à la drogue et son cerveau, il y a eu un plomb qui a sauté. Il faut savoir que ça arrive à un jeune sur 10, donc on peut être 10 et il y en a 9 à qui il ne va rien arriver. Il y en a un, son cerveau va griller littéralement. Ouais.
Et c'est ce qui s'est passé.
Donc, il sait ce qui s'est passé et c'est là que les hallucinations ont commencé de nuit comme de jour. C'est comme nous, on fait des cauchemars la nuit, mais on se réveille. Mais lui, c'était en permanence. Il avait des cauchemars devant les yeux en permanence. Et ça a commencé par, je vois la fenêtre de ma chambre qui s'ouvre et qui se ferme alors qu'elle est fermée. Après, j'entends des gens qui me disent de faire du mal aux autres. Nous, on va dire bonjour, lui, il va entendre une insulte, donc il va nous insulter, nous, on ne comprend pas. Il y a plein de petites choses comme ça.
Tu te souviens un peu, Rita, du avant-après à la maison ? Comment ça a changé ?
Moi, j'étais extrêmement jeune. Le plus lointain souvenir que j'ai avec mon frère, j'avais 3 ans. Il n'était pas encore diagnostiqué schizophrène. Mais je me rappelle qu'on était très proches et qu'on passait beaucoup de temps ensemble et que j'aimais beaucoup. J'étais tout le temps dans ses bras, qu'il était très affectueux avec moi et tout. Donc ça, c'est le avant. Et le après, je me rappelle de chaque seconde, de chaque minute, de l'enfer que ça a été, parce que toute mon enfance n'a été que violence, en fait. Je n'ai vu que ça. Parce qu'à l'époque, personne n'a pris le temps de m'expliquer, à moi, la petite sœur de à peine 4 ou 5 ans, que mon frère est malade. Donc pour moi, c'était un monstre. Pour moi, c'est pas mon frère. Parce que si c'était mon frère, il essaierait pas de me faire du mal. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est pas normal d'avoir quelqu'un de sa famille qui... Pour moi... ça y est, j'avais plus de frères. C'est comme un deuil. C'était une menace pour moi. J'étais pas en sécurité avec lui. Parce qu'on m'a pas expliqué que c'était une maladie. On n'a pas pris le temps de me dire, ah, il est malade, c'est pas sa faute. Tu vois,
oui.
C'est qu'après que j'ai compris quand j'ai grandi. Vraiment, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour que j'accepte ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans mon enfance et mon adolescence, et que j'accepte ce qui est arrivé à mon frère et que c'était une maladie et tout ça. Ça a été très compliqué.
J'imagine que pour tes parents aussi, ça devait être un deuil terrible, hein, le deuil de l'enfant parfait.
Exactement, le deuil de l'enfant parfait. Ça a cassé le couple de mes parents. Ma mère, elle a été en dépression pendant 10 ans. Je l'ai vue pleurer toutes les larmes de son corps pendant 10 ans. On en parle ouvertement, donc je vous le dis, ma mère et moi, on en a parlé ouvertement. Elle m'a dit, oui, je ne me suis pas du tout occupée de vous parce que j'étais sur Mehdi, sur sa maladie. Je lui dis, écoute, je comprends. Et on en rigole aujourd'hui parce qu'elle me dit, oui, un jour, tu m'as dit, maman, nous aussi, on existe. Et elle m'a répondu, mais vous, je m'en fiche, tu vois. Parce qu'elle était tellement... pour elle, le plus grave, c'était ce qui arrivait à son fils aîné qui, voilà, sa vie, elle était finie. À partir du moment où il a été diagnostiqué schizophrène à 14 ans, ça a été la dégringolade. Il n'est plus jamais retourné à l'école. Il n'a plus jamais eu d'amis. Il n'a plus jamais eu de. Il n'a plus jamais eu de contact avec l'extérieur. Il ne sortait pas de sa chambre. Il ne. Et d'ailleurs, jusqu'à l'âge 44 ans, il est pas. Pendant 30 ans, il n'est pas sorti de sa chambre.
Du tout.
Les jours qu'il a passé à l'hôpital, il ne sortait pas. Il a eu comme une phobie sociale aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il n'y a pas eu que la maladie psychique. Il y a eu plein de choses qui se sont rajoutées autour.
Les médecins étaient capables de vous expliquer, en fait, à la famille, pourquoi c'est parti aussi loin, aussi vite?
C'est parce qu'il était trop jeune. En fait, quand le cerveau est en train de se construire, s'il y a un facteur déclencheur dans l'environnement ou s'il y a un choc, le cerveau, c'est comme s'il avait arrêté de se développer d'un coup et ce n'est pas réversible. Ce qui fait qu'à 14 ans, quand on touche à la drogue, à l'alcool et qu'en plus, il y avait... Apparemment, ils avaient mis quelque chose, une substance très, 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 très toxique dans ce qu'ils lui ont donné à fumer. Et c'est quelque chose qui lui a brûlé le cerveau, vraiment. Son cerveau, il a grillé littéralement, comme on grille un toast. Et bah, du coup...
Vous savez qui c'est, ces gamins? Enfin, ces gamins aujourd'hui,
oui,
c'est des hommes, c'est des femmes. Ouais.
C'est des garçons, des très mauvaises fréquentations du quartier où on habitait. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Les parents ont réagi? Tes parents ont réagi à ce moment-là?
Pas du tout. Leur objectif, c'était de sauver leur fils. Il faut sauver notre fils. Ils ont vu tous les médecins. À l'époque, il y a 30 ans, il n'y avait pas cette conscience de la psychologie, de la psychiatrie. Il y avait peut-être 2-3 médecins dans Casablanca. Et ça a été très compliqué. Vraiment, ça a été un combat.
Est-ce que tu te souviens quand même?
Il était dans le déni. Ah. Oui.
Et il était dans le déni?
Mon père, il était dans le déni total, il ne voulait pas en parler, il voulait que personne ne soit au courant. D'ailleurs, il a coupé les ponts avec sa famille. Donc moi, je n'ai pas vu ma famille paternelle pendant très longtemps, je ne comprenais pas pourquoi, mais en fait, parce qu'il avait honte de dire que son fils était malade. Enfin, ouais. Tout ça, je l'ai su qu'après. Et ma mère, elle s'est battue. Et quand moi, je suis partie en France faire mes études, parce que j'ai fui, forcément. L'environnement était tellement toxique. Chez moi, c'était dangereux parce qu'il était tout le temps en crise. Comme je vous dis, il ne nous voyait pas, nous, comme des gens pour l'aider. Il nous voyait comme des ennemis, comme des cauchemars, comme des monstres. Donc, moi, j'ai vécu dans ma chambre enfermée toute mon enfance et mon adolescence parce que j'avais peur de lui. Ça, c'est juste pour te donner un aperçu de l'enfance.
Alors, une question justement de l'ado, l'enfant que tu étais. Est-ce que des fois, tu recevais des copines à la maison? Est-ce que tu te permettais ça?
C'était vraiment très, 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 très rare. La plupart du temps, c'était moi qui allais chez mes amis. D'ailleurs, mes amis, ils m'ont sauvé la vie parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir une enfance, une adolescence comme les autres, les temps où j'étais chez eux. Et ma mère, elle m'envoyait tout le temps. Son objectif, c'était que je ne sois jamais à la maison. Donc, elle m'inscrivait à plein de cours de sport, tous les voyages organisés, dès que je pouvais aller quelque part, aller chez la famille, passer les vacances chez la famille, il fallait que je ne sois pas à la maison en fait. Il fallait tout le temps qu'on ne soit pas là et que j'aille chez mes amis, même après l'école. Elle me disait, rentre pas tout de suite à la maison, va chez tes amis, va chez Ada. Donc, c'était... Et puis, vu de l'extérieur, pour les gens qui ne savaient pas, ils disaient, fchouche. Non, ce n'est pas fchouche, je fuyais parce que chez moi, ce n'était pas sécure.
Et moi, ton frère, ton cadet, le cadet,
Oui, le cadet, il est extrêmement touché par ce qui s'est passé parce qu'ils n'avaient que 2 ans de différence. Ouais. Et mon cadet, il n'a jamais dépassé le truc. C'est quelque chose qui l'a profondément affecté. Et je pense que même au jour d'aujourd'hui, il a encore du mal. C'est compliqué de... Quand on a été très proche avec son frère, presque jumeau, enfin 2 ans, c'est rien. Ouais.
De le perdre, en fait.
On a vu sa vie comme ça se détruire du jour au lendemain. En fait, en tant que frère et sœur, on culpabilise d'être heureux. On culpabilise de s'en sortir. Et c'est comme si on faisait tout pour rester dans ce malheur, pour rester... Parce qu'on se dit, lui, il n'a pas eu cette chance, et moi, j'ai la chance. Et c'est dur, c'est vraiment dur de se dire, mais non, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être...
Alors, est-ce que tu te souviens quand même, malgré tout, pendant toutes ces années...
Oui.
De moments heureux à la maison.
Ah oui,
en famille.
À la maison, non, il n'y avait pas. On n'avait pas de. Avant qu'il tombe malade, oui, il y avait des fêtes, il y avait des choses sympas chez nous. Par exemple, à El Kbir, on avait le mouton, on avait la famille qui venait, on avait ma mère quand qu'elle gaffa avec les habits de la Mario, tout avec toutes les filles de la famille. Ça, je m'en rappelle très bien. D'ailleurs, j'ai des photos. Heureusement qu'il y a les photos d'ailleurs. Mais après sa maladie, c'était terminé. Il y a plus jamais eu de moment de bonheur de mes 5 ans à mes 18 ans. Il n'y a jamais eu de fête chez nous. Il n'y a jamais eu de... Non, non. Mmh. Une fois, enfin, pour mes 18 ans, j'ai eu une fête avec tous mes amis. Ça a été la seule fête de mes 5 ans à mes 18 ans. Et pour mon anniversaire de 5 ans, je me rappelle, la dernière fois où j'ai fêté mon anniversaire chez moi, j'avais eu une grande fête avec mes amis de l'école et tout. Et voilà, il y a eu deux fêtes. En gros.
Ça, c'est pour les fêtes, frères, jamais, mais des moments simples en famille, des petits moments
non,
de bonheur.
Non, on ne mangeait pas ensemble. Non, on ne mangeait pas ensemble. On ne mangeait pas à table ensemble. On voyageait pas ensemble. Enfin, il y a eu des voyages, mais ça s'est très, très mal passé. Parce qu'il n'était pas stabilisé. À l'époque, ce que je voulais te dire, justement, je viens de me rappeler, c'est qu'à l'époque, il n'était pas stabilisé. Parce que pour trouver le bon dosage, le bon médicament, la bonne thérapie, c'est très compliqué. Ouais. Il a fallu 20 ans pour que ma mère trouve le bon truc, le bon médecin, le bon dosage. Et elle est partie jusqu'en Suisse se former. Et elle a ramené une méthode ici qui s'appelle Profani parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était l'environnement qui permettait aux malades souffrant de maladies psychiques de s'en sortir. Ouais. Si la famille est formée, eh ben, elle peut communiquer, lui faire accepter son traitement, l'aider. Eh bien, il faut se former, il faut avoir des outils pour l'accompagner et retrouver avec l'harmonie et l'ambiance familiale positive. Et c'est possible parce que ma maman a réussi à le faire. Et quand je suis revenue de France, j'ai retrouvé une famille totalement différente. Mmh.
Malgré la maladie.
Il était calme.
Mais alors, pourquoi il est parti, à ton avis? Pourquoi il est parti?
Ah ben vous savez, les neuroleptiques, c'est à double tranchant. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Ça donne beaucoup de problèmes. Ça donne des problèmes cardiaques. Ça donne des problèmes. Ça ralentit tout le système. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que...
C'est une mort à petit feu, en fait.
Il est mort à petit feu et à 44 ans, il s'est éteint. Il s'est éteint dans son sommeil. Ça s'est déclenché beaucoup trop tôt. Donc, il était condamné dans tous les cas. Ouais. Il était condamné à ne pas vivre longtemps. Ma mère le savait, les médecins lui ont dit. On a essayé de lui offrir la meilleure vie possible, malgré les conditions. Ma mère, elle s'est battue. Elle a vraiment fait du mieux qu'elle a pu. Je peux te dire que vraiment, ce qu'elle a fait, elle a fait plus pour les autres que pour son fils, parce que son fils,
il était... Ouais.
À un degré tellement élevé que, bon, nous, ça nous a apaisé, la famille a retrouvé du bonheur par la suite, les 10 dernières années, mais elle a plus aidé d'autres, en fait, avec cette formation, ces outils. Ils s'en sont très bien sortis. D'ailleurs, il y a même une association des usagers, c'est-à-dire les personnes qui ont souffert de maladies psychiques, qui ont créé leur propre association où ils font des activités et même... Plusieurs se sont mariés, ont eu des enfants, sont retournés dans le monde du travail. Donc, ils contribuent à l'économie de leur pays aussi, au lieu d'être marginalisés et isolés. Donc, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais avec cette formation.
Rita Tarachin, je vais me permettre de te poser cette question. Est-ce que la vie est plus douce depuis le départ de Mehdi?
Est-ce qu'elle est plus douce? Je ne sais pas. J'ai l'impression que...
Est-ce que tu y as déjà pensé, en fait?
Non, j'aurais aimé qu'il soit encore là parce que comme je n'ai pas vraiment eu de relation avec lui, j'aurais aimé avoir le temps de construire quelque chose. J'aurais aimé avoir le temps... Je pense que j'aurais pu faire plus. J'aurais pu l'aider plus. J'aurais pu peut-être... J'ai de l'espoir de me dire qu'il y a des choses qui peuvent se faire, que la médecine évolue et que j'aurais pu peut-être faire quelque chose et lui donner... À mon tour, après ma maman, lui donner une vie meilleure. Mmh. Ma maman, par contre, elle est soulagée parce qu'elle le voyait souffrir.
Oui.
Elle voyait qu'il n'avait pas de vie, qu'il n'avait rien. Qu'il n'avait pas de... Elle disait... Il a quand raïd bra. 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 ولكن الا كان غيبقى هي تعدى هي دي عندك.
Quand tu dis j'aurais voulu construire quelque chose avec lui, c'est parce que plus jeune, tu ne savais pas ce que c'était et donc tu n'avais pas de relation avec lui. Maintenant, avec l'âge adulte, la prise de conscience de la maladie, ta formation en psychologie aussi, tout ça aurait fait en sorte... J'ai l'impression que tu aurais aimé faire tout ça plus tôt, en fait, ne pas avoir ces 10 ans de gap avec lui, mais faire tout ça, apprendre tout ça et avoir cette prise de conscience plus tôt pour pouvoir construire avec lui.
Exactement, parce que la peur m'a paralysée. La peur, là, j'ai gardé les mauvais souvenirs en tête et dès que je me retrouvais en face de lui, même en étant adulte, j'étais comme paralysée, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à bouger. Et j'aurais aimé pouvoir dépasser ça, et ne serait-ce que discuter, ne serait-ce que m'asseoir et lui dire écoute, je comprends maintenant que tu étais malade et c'est ok, et on va y arriver, et puis on va discuter, et puis peut-être j'aurais fait des efforts pour l'aider à sortir, ne serait-ce que marcher. Peut-être que le fait de marcher aurait fait en sorte qu'il ne parte pas d'une crise cardiaque à 44 ans, je ne sais pas.
Alors Rita, justement, des familles sont en train de vivre, à l'heure où on se parle, la même situation, le même drame. Qu'est-ce que tu aimerais que ces familles retiennent de ton expérience de vie à toi?
De mon expérience à moi, j'aimerais qu'ils n'oublient pas que toute la famille souffre, qu'ils n'oublient pas les frères et sœurs. J'aimerais qu'on prenne en compte la souffrance aussi des frères et sœurs, parce qu'on n'en parle jamais. On parle de la souffrance des parents, bien sûr, c'est un déchirement pour les parents de voir leur enfant malade, leur enfant sombrer, leur enfant souffrir. Et Laïcha Filjani, mais il y a aussi les frères et sœurs, prendre le temps de leur expliquer, prendre le temps de les accompagner, de les former aussi, de leur montrer, ben voilà, à partir de maintenant, voilà comment il faut lui parler, voilà comment créer du lien aussi. Même dans la souffrance, on peut créer du lien, on peut créer du bonheur, on peut retrouver des moments de bonheur en famille, avec toute la famille, et pas s'isoler. J'aimerais leur dire de ne pas s'isoler, de ne pas avoir honte d'en parler, de ne pas avoir honte de demander de l'aide, de ne pas avoir honte de le dire. Il y a des solutions, c'est ça que je veux dire. Il y a des solutions, il ne faut pas s'isoler. Et s'il y a des gens qui ont besoin du contact de ma maman, je suis prête à le donner, il n'y a aucun souci, non, on veut juste aider.
C'est l'association Amali.
C'est l'association MLI. Ma maman, elle s'appelle Naïma Trashen. Et le président, il s'appelle Monsieur Mkwar. Ils ont une page Internet, ils ont une page Facebook. Moi, je peux donner les coordonnées à qui a besoin. Il n'y a pas de souci. Nous, on veut juste aider. Si on peut aider, on est là.
Alors justement, toi aussi, tu as une page Instagram sur laquelle tu es très active. Oui. C'est Rita Trashen Tazi.
Oui, voilà. Exactement.
Donc les gens peuvent te contacter directement. Et puis je suis sûre, Rita, qu'on aura l'occasion de revenir sur plein d'autres sujets, justement, comme on a démarré au début. On a dit la vie n'a pas été simple avec toi, mais en même temps, tu es là pour la simplifier pour les autres, en fait.
Je la simplifie pour les autres, et puis je leur montre aussi que la vie est belle. Et qu'on ne doit pas regarder que ce qui ne va pas, on doit aussi regarder ce qui va. Sinon, on ne s'en sort pas.
Rita Tarashintsazi, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Yasmine pour ton invitation. Je suis très honorée d'avoir participé.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.